Bienvenue dans Moderne, le podcast du Marais Mood consacré aux tendances d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Katia Barillo, rédactrice en chef du Marais Mood, site d'information et de tendances, et
Sandrine Maggiani, Trend Director et Digital Content Editor.
Chaque dimanche, sur le temps d'une conversation entre amis, nous décryptons les tendances mode, beauté, bien-être, déco, food, etc.
Bref, les grands courants socioculturels qui influencent nos comportements et façonnent le monde et le mood moderne.
Bonne écoute! Alors, on est dimanche, bonjour!
Hello!
Bon, je suis avec Sandrine, bien sûr, vous avez l'habitude d'entendre sa voix, mais là, on est avec Éric Violet.
Mm-hmm. Ouais, mais on est dimanche.
On est dimanche. Il a une voix de crooner.
Bah, il n'est pas réveillé, on est dimanche.
Alors, on nous promettait le retour en grâce des spectacles vivants, hein, c'est ça. Alors que dans la réalité, et sous la contrainte, le monde du divertissement se projette déjà en mode virtuel, en exploitant tous les outils de la haute technologie pour nous éviter le déplacement, tout en nous garantissant une expérience sensorielle unique. Ça, c'est ce qu'on nous promet. Bon, comment alors envisager le monde du spectacle de demain, de la musique, des concerts, de l'avenir des artistes? Et nous, dans tout ça, c'est ce que nous allons développer aujourd'hui grâce à Éric Violet et bien sûr Sandrine, parce que nous sommes les premiers à désirer le retour en salle et en tournée de nos groupes préférés. N'est-ce pas Sandrine?
C'est tout à fait ça, tu as tout dit. Donc ce sont là des questionnements critiques qui n'échappent évidemment pas, et tu connais mon amour pour les consommateurs, donc aux consommateurs de divertissement que nous sommes et que nous allons explorer. Alors pour la troisième fois, pour ceux qui ne te connaissent pas, Éric Violet.
Bonjour.
Successivement chef de projet chez New Rose, E-I-M-I. Parlophone, je le dis à la française, moi, à la parisienne, Parlophone, Columbia, puis directeur de business développement digital chez
Sony Music.
Donc voilà, c'est déjà pas mal.
Mais c'est le passé.
Voilà. Ah, c'est le passé déjà ?
Ouais, aujourd'hui, je travaille toujours chez Sony Music, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années.
Mm-hmm.
J'ai une très bonne crème de jour.
Tu me donneras le...
De la direction de la désynchronisation, donc de la musique à l'image, le cinéma, la publicité, les défilés, les jeux vidéo, tout ce qui utilise la musique en support à l'image, donc les utilisations secondaires de la musique.
Alors ça va être très excitant de savoir ce que ça veut dire, de comprendre les tenants et les aboutissants, parce que si l'on en croit les chiffres alarmants, les tentatives avortées des salles de spectacle et des festivals, d'une grande partie des artistes et des musiciens, on sait que l'avenir de la musique, hein, telle qu'on la connaît, serait en dépôt de bilan, on va dire, généralisé, en tout cas qu'on tend vers la précarité.
Oui, d'autant que si l'on en croit l'industrie mondiale de la musique en live pré-Covid, eh bien, elle représentait quelque 30 milliards de dollars par an. Et puis, tout s'est arrêté depuis. Donc, des concerts dans les pubs, au festival, que les confinements ont fait exploser les nouveaux usages comme le streaming et les live streams, ce qui a eu et aura évidemment un impact sur l'avenir des labels. Donc, ce qu'on aimerait savoir, Éric, c'est selon toi, quelles sont les tendances fortes, cette fois-ci, c'est pas moi qui vais les donner, mais toi, qui se dessinent pour l'avenir du divertissement, et particulièrement de la musique, mais aussi des concerts en live, et de la manière de se produire des artistes.
La manière de consommer de la musique.
Ouais, et la manière de se produire des artistes aussi.
Il y a déjà une petite précision à faire, parce qu'on parle de la musique.
Mm-hmm.
La musique, c'est plus que le live ou les disques. Aujourd'hui, la musique, c'est aussi la diffusion. C'est l'édition musicale. Là, on ne parle pas trop d'édition musicale.
Mm-hmm.
La musique, c'est aussi la réalité augmentée, c'est aussi l'intelligence artificielle, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Qui prépare un avenir pour la musique assez radieux. Et je voudrais juste corriger quelque chose qu'on a dit juste avant. La musique est très loin d'être en dépôt de bilan. On n'a jamais écouté autant de musique qu'en ce moment.
Mm-hmm.
J'en veux pour preuve, il suffit que vous alliez au supermarché, il y a de la musique. Vous allez au café du coin, il y a de la musique.
Mm-hmm.
Alors normalement, quand il y a des adolescents dans la pièce, il y a de la musique. La musique est partout.
Les applications, TikTok, bidule.
Exactement, il y a une multiplication des applications et des usages de la musique. Le fait est que face à ce progrès assisté par la technologie, le monde de la musique ne s'est pas adapté aussi vite. C'est-à-dire que les industriels de la musique ont eu du mal à s'adapter aussi vite quand les musiciens eux-mêmes et le public ont été beaucoup plus rapides. Donc bon, ça tend à s'équilibrer. Cette année, le marché mondial de la musique est en stabilisation, sinon en hausse. En tout cas, Sony Music sur le marché français est en nette hausse.
Ah ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le streaming, notamment en période de confinement, a complètement explosé. Les chiffres ont explosé.
Ouais,
alors, c'est vrai pour la diffusion de musique sur les plateformes dites dédiées à la musique, mais c'est vrai aussi sur toutes les autres formes d'utilisation de la musique. On parle de Netflix, par exemple. Netflix, il y a une tonne de séries qui utilisent de la musique. Ça nous a même, nous, permis de signer des artistes ou de placer des artistes.
Ah oui ?
C'est même le cœur du métier de synchronisation, puisqu'en fait, la synchronisation, c'est bien ça. C'est par exemple, je prends un exemple tout de suite, mais on l'utilisera peut-être un peu plus tard dans le détail, la série qui s'appelle Validé, qui est passée sur Netflix, qui ne parle que de musique urbaine. On a pas mal de musique qui a été synchronisée sur cette série-là. Et donc, évidemment, c'est un driver d'audience, mais c'est aussi un driver de promotion. C'est aussi quelque chose qui permet aux artistes d'être connus et reconnus par le plus grand public avant même de passer en radio, comme c'était le cas avant. Voilà.
Donc on fait, oui, avant c'était la radio et puis après on se disait, oh c'est pas mal, on va faire une pub avec cette musique, et maintenant c'est le contraire.
Alors avant c'était, il faut passer en radio, on met des disques physiques en place dans les magasins physiques, et puis quand les ventes commencent, là on met de la pub à la télé, et là on explose. Aujourd'hui c'est plus du tout la même chose, on pourrait même dire que la chronologie des médias, si on peut utiliser ça en musique, c'est ce qu'on utilise dans la vidéo ou dans les films, c'est le timing dans lequel on commercialise les films, sur quel support.
Ouais.
Aujourd'hui, la musique, on n'attend plus spécialement d'avoir un album prêt pour le proposer au public. C'est-à-dire que le streaming permet ça aussi. On a un titre, bim, on l'envoie.
Ouais, et justement, le live stream ici.
Alors, le live stream, c'est encore autre chose. Le live stream, c'est.
Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose?
Le live stream, c'est. On est tous les trois dans un salon, on met notre télé, et puis on assiste au concert depuis notre endroit. Bon, c'est pas tout à fait la même chose qu'être en concert, clairement.
Non, la musique vivante est rien de mieux.
Mais en même temps, c'est un pis-aller. Ça permet à des vrais fans de pouvoir quand même avoir accès à leurs artistes en performance. Ça peut permettre à des marques, et ça c'est encore un autre business qui s'est développé beaucoup ces dernières années, de prendre un artiste ou des artistes et de faire des showcases privés. Donc de permettre aussi, via des nouveaux vecteurs de communication, aux artistes de toucher d'autres publics. Et ça marche surtout avec les marques, les marques qui touchent les publics les plus jeunes, les plus jeunes. Après, tu vas avoir peut-être des marques de luxe, en effet, qui vont faire autre chose. Tous les ans, par exemple, à Cannes, au Festival de Cannes, le Festival du film, le FIF, il y a des grandes marques, des grands bijoutiers ou des grandes marques de luxe qui aiment organiser des chauffards, exactement. C'est la marque. Ombrelle, et qui va te demander par exemple Maria Carré pour un show de 20 minutes.
Mais elle est toujours vivante.
Elle est toujours vivante, elle te remercie. Elle te fait.
Mais je l'adore.
It's Maria.
Step.
Ouais, donc tu disais.
Tout ça pour finir cette petite parenthèse. La musique va bien. La musique telle qu'elle existait il y a encore 5, 10 ans, 20 ans, la musique que j'ai connue, puisque avec mon grand âge, j'ai connu le vinyle, le CD, l'avènement. J'ai une petite centaine d'années. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que la musique trouve sa voie autrement. Le problème, c'est de s'accrocher, de trouver les business models qui vont bien.
Oui, et alors justement, on fait un petit bond dans l'avenir, puisque tu viens du passé, mais tu fais un bond dans l'avenir, donc puisque tu t'adaptes, avec l'intelligence artificielle.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qu'il en est de l'intelligence artificielle? On parle aujourd'hui, justement...
Alors, moi, je suis très Sony, vous l'aurez remarqué. Donc, de quoi on parle? Je vais parler de ce que je sais. En l'occurrence, on a deux directions très... très intelligence artificielle. C'est-à-dire que l'une d'entre elles, c'est une plateforme qui est en train de nous permettre de taguer, de qualifier tous les morceaux de notre répertoire, et Dieu sait qu'ils sont des millions. Et donc on va rentrer tous les morceaux dans une application, un système qui va reconnaître les données mathématiques de ces morceaux et qui ensuite, à partir de ces données mathématiques, vont qualifier avec des données plus humaines, donc le cerveau humain quand même intervient là-dedans, mais l'intelligence artificielle est auto-apprenante. Donc plus on va donner d'informations à cette intelligence artificielle, plus elle va nous permettre de qualifier les morceaux. Et dans mon métier et celui de mon équipe, c'est très important parce qu'en fait, on va dire bonjour l'intelligence artificielle, je voudrais quelque chose qui ressemble à Lady Gaga ou à James Brown ou à Bach en donnant un morceau. Ça va chercher derrière et ça va nous sortir les 10 morceaux qui ressemblent le plus à ce qu'on a demandé.
Okay.
Donc ça, c'est un outil, c'est une vitesse d'activation des recommandations qui nous permet de faire plus de business. Mm-hmm. Et la deuxième, le groupe Sony, cette fois-ci, a la chance d'avoir un laboratoire de chercheurs basé à Paris. Il y en a deux dans le monde, un au Japon, un en France. Et il est à Paris. Et donc, ses camarades d'une sister company travaillent sur tous les outils qui peuvent permettre aux musiciens d'enrichir leur créativité. Oui. Donc, typiquement, comment ça fonctionne ? Alors, des outils, il y en a plein, hein. On ne va pas rentrer trop dans la technique, mais en gros, on amène des musiciens, des artistes de la maison, ou de la maison sœur, les éditions. On reviendra sur la différence entre production et édition.
Oui, ça aussi. Parce
que souvent, on ne sait pas ce que c'est.
Bien. Non.
Et donc, en gros, il y a Sony Music Publishing qui gère les éditions, Sony Music qui gère la production, et Sony Computer CSL qui gère le lab.
Ah oui, d'accord.
Donc tout ça c'est une initiative un peu pompier de dire ça, mais ça s'appelle One Sony. L'idée étant de pouvoir promouvoir les mêmes répertoires, les répertoires communs auprès de nos autres sister companies qui font du cinéma, qui font du jeu vidéo, PlayStation, etc.
Le gaming aujourd'hui.
En fait, de rattraper un retard qu'on a pris il y a une vingtaine d'années. Hein, j'étais au business développement digital, on aurait pu être les premiers, on ne l'a pas été. On a inventé le Walkman, on a perdu l'avance. Hein. Ouais.
Mais il y a une marque là, qui s'appelle Believe qui vient de faire une capitalisation en bourse et qui est arrivée, qui était là, personne ne l'a vu venir. Enfin, en tout cas, tout le monde a dit ouais, mais, bof,
tu sais,
c'est bien
ce
gentil.
Ce sont que des gens qui viennent de Major qui sont chez Believe. Donc on les a très bien vus venir. Ils sont amis et voisins. Donc. Il faudra les interviewer.
Non, mais moi, ma question, c'est justement là, quand on entend ça, c'est quel avenir pour les majors iconiques alors ?
Mais une major, par exemple, de la production comme Sony Music, alors effectivement, elle repose sur. Enfin, son business repose sur, en grande partie sur son catalogue. Et Dieu sait que son catalogue est riche, il est prestigieux, je vais pas l'énumérer là.
Dis-nous quelques noms.
Je peux parler de Jimi Hendrix, je peux parler de Bruce Springsteen, je peux parler on a parlé de Mariah Carey, bon, dans un autre genre. Mais en français, on a aussi des grosses pointures. D'ailleurs, effet d'annonce, on a NTM, qui pour toute une génération est quand même assez emblématique. Et un film sort à la rentrée qui s'appelle Suprême et que je recommande chaudement à tous ceux qui connaissent NTM et qui ont envie de le redécouvrir. C'est les premières années d'NTM et c'est franchement c'est très très bien fait, c'est très très bien joué. Les deux acteurs rejouent et rechantent tous les morceaux du groupe sur les trois premiers albums et franchement c'est une claque.
Quand on a vu ces artistes, moi j'ai eu la chance de les voir sur scène, c'était vraiment magique. Et j'espère qu'ils sauront reproduire ça parce que vraiment, c'est incroyable.
C'est étonnant. Le film est étonnant.
Et le travail sur les costumes,
Tout est bien. Puis il y a des petites anecdotes. Moi je travaillais dans un autre label à cette époque-là, mais le groupe était sur le label Epic, qui est un label de Sony. C'était des potes qui bossaient sur le projet. Et donc tout ça. Enfin, c'est des pans d'histoire, mais c'est important de voir ça parce que ça permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui.
Oui.
Et rien n'arrive sans rien. Donc aujourd'hui, sur quoi les maisons de disques vont. Il y a quelques années, j'ai suivi un stage payé par Sony, merci Sony, qui s'appelle Amplify. Amplify, le but, c'est d'élire quelques candidats dans les différentes unités dans le monde, de les mettre en groupe et de leur apprendre à travailler en mode projet. Et donc, c'est des groupes qui sont formés comme ça à la volée. Et il faut donc de différentes langues, de différentes professions à l'intérieur de la musique, de la maison de disques. Et le but du jeu, c'est de monter un projet disruptif, novateur. Alors, beaucoup sont partis dans la technologie et autres. Le nôtre, c'était justement celui-là. Qu'est-ce qui fait que dans 10 ans, la maison de disques a encore de l'intérêt pour les artistes ?
Oui, absolument.
Voilà. Et c'est une question qu'on aurait pu se poser il y a beaucoup plus longtemps, en fait. on aurait gagné du temps et probablement des ennuis en moins.
Oui, parce que maintenant, les artistes arrivent dans leur cuisine à faire tout.
Archi complet, ils savent tout faire, mieux que beaucoup de gens dans la maison de disques. Ça crée une véritable révolution dans la maison de disques. C'est-à-dire qu'en fait, en l'espace, je pense, de 5 ans, on a renouvelé peut-être 30% ou 40% du personnel. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de migrations aussi. Ouais. Hein. Moi, je suis un migrant, hein, clairement. J'ai bossé dans 5 ou 6 unités différentes en l'espace de 15-20 ans. Donc, à chaque fois, s'adapter. Et donc, on a beaucoup maintenant de gens qui sont... La moyenne d'âge est beaucoup plus jeune, évidemment.
Ouais.
Mais beaucoup de gens qui sont à la fois... intuitifs, marketeurs,
absolument,
mais aussi monteurs à l'image,
ouais,
qui sont aussi des fans de d'applications et de web, des gens qui connaissent vraiment la même chose que les artistes. Et encore, les artistes vont encore plus loin puisqu'ils sont créatifs.
Ils sont créatifs. Voilà,
alors que nous, on est là pour faire quand même notre job, c'est de faire que la musique se vende.
Et qu'est-ce qui les attire aujourd'hui justement à venir chez Sony par exemple? Alors des artistes indés qui pourraient être très bien.
évidemment, le prestige.
Tout le monde ne peut pas te connaître ou t'avoir comme...
Ce qui les attire, je pense, c'est la richesse du répertoire. Mmh. C'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'en fait, la roue tourne en permanence. Les maisons de disques, toutes les maisons de disques, on le vend en poupe un moment, et puis elles ne l'ont pas l'année d'après ou l'année suivante. C'est comme ça. Donc en général, quand on a plusieurs artistes très exposés ou qui ont explosé dans l'année, ça attire plus les autres artistes, et c'est normal. Donc ça a été notre cas cette année.
Enfin, avec qui?
Avec quelques-uns, j'en parle un petit peu plus tard.
D'accord, et justement, moi je fais le parallèle avec le streaming, comme des boîtes comme Spotify aujourd'hui.
Ouais.
Donc,
qui sont à la fois des partenaires et des concurrents.
Oui, bah justement.
Mais ça, c'est le jeu de la musique. Ouais. C'est pour ça que c'est compliqué la musique, mine de rien. Mm-hmm. Le business de la musique est compliqué. On a l'impression que tous ces types-là, tous ces cols blancs de la musique sont payés à ne rien faire. Et en fait, c'est que de la gestion de droit. Mm. Et donc, on parle que de ça, que de droit. Donc, et c'est assez compliqué. Je vous rappelle juste qu'avant qu'on parle du business, du streaming ou de la musique virtuelle, enfin, en tout cas dématérialisée, des acteurs majeurs du marché français soutenus par l'État, balancés sur les culs de bus, c'était Wanadoo pour les nommer, disaient « Chez Wanadoo, la musique est gratuite.
Ouais. »
Donc, je vous propose qu'on fasse la même chose avec, je ne sais pas, « Chez mon restaurant du coin, on bouffe gratuit. » Et évidemment, hein, tout le monde va se ruer sur la bouffe. Par contre, au bout de 5 ans, plus personne ne pourra acheter des matières premières.
Oui.
C'est pareil pour la musique. C'est-à-dire que si la musique est consommée gratuitement, les musiciens, les artistes, les auteurs ne sont pas rémunérés. Mmh. Et alors, j'enfonce un peu une porte ouverte en disant ça, mais il a fallu, donc, dans un premier temps, freiner la piraterie.
Mmh.
Dans un second temps, commencer à mettre en place des business models. Et maintenant, on en est à rétablir une balance de paiement qui soit favorable aux artistes. Mais dans un premier temps, il fallait juste juguler la crise, quoi. Et Dieu sait que la crise, elle nous a fait très mal. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en l'espace de 20 ans, je pense que... moi, quand j'étais chez Sony au début des années 2000, on devait être 500. Et aujourd'hui, on est 200. Mais 200, tous à la bonne place.
Ouais.
Voilà. C'est ça la différence.
Et justement, toujours sur Spotify, qui représente à peu près 60 000 titres téléchargés par jour.
Streamés. Ouais.
Non, mais c'est très bien. Est-ce que c'est viable, justement? Est-ce que c'est rémunérateur? Alors, par rapport à un...
Ça, c'est la grande, c'est le grand débat du moment. Ça oppose beaucoup de syndicats et de maisons de disques.
C'est un peu comme la monnaie
virtuelle.
Virtuelle, alors, non?
Oui et non, parce que la monnaie virtuelle, on sait que ça monte, quoi. Voilà. Mais
c'est
c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps, c'était normal. Il fallait établir des barèmes. Voilà. Quand on ne sait pas ce qu'on va faire, on est bien obligé de poser un cadre. Et puis, au fur et à mesure qu'on apprend, le cadre évolue. Aujourd'hui, il y a besoin que le cadre évolue. Je pense qu'il est évident que un artiste qui marche en streaming gagne sur le moment moins d'argent que s'il avait vendu beaucoup d'albums dans un magasin. Voilà. Le business n'est pas le même. le ce qu'on appelle le P&L, le profit and loss, là, n'est pas le même, quoi. En revanche, une fois que le disque en magasin est retiré des bacs, et Dieu sait qu'un disque maintenant en magasin, ça a une durée de vie très courte.
C'est-à-dire ?
Bon, ça dépend du succès de l'artiste, mais c'est presque du dépôt-vente. C'est-à-dire que ça marche, ça reste. Ça marche pas, tu sors. C'est très dur, hein, c'est devenu trash. C'est-à-dire qu'avant, on avait accès aux hypermarchés. Souvenez-vous, hein, il y a peut-être encore une douzaine d'années, on rentrait dans un hypermarché ou un supermarché, et il y avait ce qu'on appelait des broches, des têtes de gondole, avec les singles du moment. Voilà. Ça, c'est terminé. Hein. On a été relégué derrière le bricolage. Quoi. Donc, donc ça, c'est une réalité. Sur un site comme Spotify, un artiste reste ad vitam aeternam quasiment. Donc c'est la long tail théorie. C'est-à-dire qu'en fait, plus l'artiste est exposé, plus les gens vont l'écouter. Mais c'est comme une radio, je veux dire, on s'en lasse pas. Et puis il y a le phénomène des playlists qui va permettre de ressortir les artistes. Il y a derrière là encore, il y a l'intelligence.
Il y a l'IA.
Enfin, c'est pas une IA, mais bon, il y a en tout cas un programme qui permet de dire tu as écouté ça, tu aimeras ça. La recommandation, c'est
très clivant. La recommandation, c'est bien, mais je trouve que c'est clivant et ça enferme dans des catégories.
Ça a remplacé, en fait, ça n'a pas remplacé, mais ça, la fonction qu'avaient les vendeurs Fnac, par exemple. Et Dieu sait, alors Fnac, mais moi je pense plus à Gibert, qui était un vrai magasin de disques, ou les disquaires qui galèrent.
Il y en a encore pas mal dans le Marais.
Mais il y en a partout.
Ça revient.
Il y a même plus de place encore dans le Marais, il pourrait y en avoir plus. Hein. Si ça ce n'est qu'à moi, je suis bon consommateur. Faut savoir que le vinyle est en permanente augmentation.
Mais pourquoi ?
C'est déjà parce que c'est un bel objet, contrairement au CD qui est franchement... c'est un nid à poussière, c'est moche. Il n'y a pas de place pour imprimer quoi que ce soit. Un vinyle, c'est presque une œuvre d'art.
C'est ça.
En tout cas, il y en a certains.
Ça peut se suspendre comme un tableau.
J'ai vu une ado qui avait un t-shirt avec un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle The Who, un groupe anglais.
Eva, spécial dédicace.
Typiquement, les pochettes de ce groupe-là ont marqué une génération. Mais on peut en parler. Parler des pochettes, ça pourrait presque une émission. Faites une émission spéciale avec les gens du Marais. C'est vraiment. C'est vraiment. Voilà. Donc pourquoi ? Parce que, et j'ai un ado chez moi qui va écouter des trucs en streaming, mais qui va quand même, de temps en temps, s'acheter un vinyle pour le plaisir, un peu old school, de poser la galette sur sa platine, la sortir du truc. Il y a un cérémonial. C'est pas je pousse un bouton, c'est terminé. C'est pas si je m'endors. Ça continue, non,
c'est ce qu'on appelle le phénomène aujourd'hui en tendance de nostalgie ou nostalgia. C'est être nostalgique de quelque chose que l'on n'a pas connu, mais qui a été iconique à certains moments.
Mais je vois là, j'en parlais tout à l'heure pour rire, mais il y a un retour du Walkman. Je vois des gens se balader avec. Alors, en plus, excusez-moi. C'est quand même gros comme un grille-pain, alors qu'on n'a plus besoin de rien. Et le mec se balade avec ça.
Mais ça fait style.
Il faudrait des rollers.
Mais les rollers reviennent.
Sont-ils jamais partis?
Quand même, il y a une grosse résurgence. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y va y avoir. Le disco, c'est très bien. Il va y avoir un spectacle de rollers au carreau du temple début juillet.
On sera invité à participer à la Roller Dance Party. Donc ça revient
génial. Je vous regarderai alors.
Toutes les musiques qui vont bien. Donc justement, on parlait de néostalgie ou de nostalgie.
Alors justement, au-delà de Spotify et d'autres plateformes de diffusion, qui dit streaming dit réseaux sociaux, qui dit réseaux sociaux dit TikTok.
Oui, mais pas que, c'est la plateforme qui explose en ce moment. Mais c'est comme tout, hein, voilà, ça marche très fort à un moment donné, il y a un énorme buzz. Est-ce que ça tient?
Qu'est-ce que ça apporte aux musiciens, aux artistes qui sont mis en avant?
On dit bien que TikTok est né...
Plus grosse plateforme, il faut se rappeler. Le plus gros site de musique, c'est YouTube.
TikTok
le revenu pour les musiciens, c'est YouTube.
Ça, on est d'accord. Mais d'ailleurs, on y reviendra. Développe YouTube, alors,
YouTube
maintenant.
Parce que YouTube a lancé YouTube Music, comme Apple a lancé Apple Music, comme je pense, sous peu, ça ne serait pas étonnant en tout cas, que Spotify lance Spotify Vidéo.
Oui,
Voilà.
c'est.
Donc,
Oui.
mais c'est le même phénomène
C'est
que
déjà.
celui auquel on a assisté dans les années 90, où au bout d'un moment, tout le monde veut faire le métier de l'autre. Il y avait la Fnac qui vendait des disques, il y avait Énergie qui faisait de la musique à la radio, il y avait M6 qui faisait des clips, et puis tout d'un coup, tout le monde a voulu faire un peu le métier de l'autre. Donc on s'est mis à devenir un label, on s'est mis à signer des artistes, on s'est mis à. Bon, ok, tant mieux, ça fait plus de business pour plein de gens, mais à un moment donné, ça encombre trop. Et finalement, ben, c'est comme tout, hein, il y a une période d'explosion,
D'embellie.
et puis ça stagne, et puis ça s'essouffle, et puis
Et
paf,
puis
ça
ça
s'écroule, et
redescend.
quelque chose à côté se crée et crée le buzz. Bon, c'est plutôt bien pour nous, puisqu'en fait, ça permet à la musique d'être tout le temps en mouvement. Alors, il y a des périodes de crise, certes, mais il y a aussi des périodes de faste, et Dieu sait qu'on en a vécu quelques-unes quand même, et c'est pas fini. Donc, TikTok, qu'est-ce que ça apporte? Alors, déjà, TikTok, le modèle derrière TikTok est pas toujours très clair.
Il n'est pas clair, mais la seule chose qui soit légitime, c'est qu'il a commencé, c'est la musique en fait, TikTok, c'est la danse, donc
Oui,
forcément la
mais
musique.
la musique, c'est bien,
Quelle musique?
mais quelle musique? Quelle
Ça, je suis
musique
d'accord.
et contre quoi? Parce que c'est très gentil de dire, tiens, regarde, j'ai une plateforme, elle est géniale, tu vas pouvoir danser le hip-hop dans ta salle de bain, mais si l'artiste sur lequel tu fais du hip-hop n'est pas payé, ça s'appelle du vol.
Et
C'est
c'est le
ça.
cas?
Non. Il a fallu. Non, mais non,
Au départ,
tout ça
c'était le
étant.
cas.
Bah, au départ, quand ça commence, on se dit, tiens, c'est quoi ce truc? Et puis ils viennent nous voir, ou on va les voir, et puis on trouve un accord. Et en général, ça se passe aux US, parce que c'est global. Ce qui est intéressant sur TikTok, au-delà du business model qui est derrière, qui n'intéresse pas forcément les gens, c'est plus qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous amène à nous, marketeurs, ou enfin à nous, professionnels de la musique, et surtout aux artistes qu'on représente? Concrètement, bah, c'est une exposition faramineuse. Et surtout, ça plus loin que ça, c'est que au-delà des artistes dont on a négocié, enfin sur lesquels on accorde des droits pour qu'ils soient diffusés sur TikTok, pour qu'il y ait de la synchronisation sur des programmes qui sont filmés par les utilisateurs, quelque part ça c'est de la synchronisation.
Oui,
Hein.
c'est ça.
C'est-à-dire je fais quelque chose sur de la musique. Sauf que la synchronisation, en général, c'est pour une œuvre d'art. Alors je veux pas être vexant pour les TikTokers, mais bon, c'est pas toujours de l'art. Mais nous, non, mais je vais te raconter un truc rigolo après, mais parce qu'on s'en sert. Même nous, on s'en sert comme un outil de com,
Mais oui.
des TikTokers. Hein.
Ouais.
Donc ça, et puis sinon, si c'est une marque qui utilise de la musique, c'est de la synchro.
ouais
C'est mon métier. Nous, on utilise ça parce qu'on a un site sur Insta. On communique quasiment que sur Insta aujourd'hui pour voir déjà comment. Oui. On a
ouais
un Insta qui s'appelle Sync Shop. Synchshop, je le dis parce que j'invite tout le monde à
Mais
venir
oui, on va y aller.
voir, parce que ça montre toutes nos sorties, les plus cools, les pubs, les films, enfin, c'est vraiment le reflet de l'activité de mon équipe, hein, et ils font un très très bon travail de communication, et notamment dans les petites vignettes qui sont utilisées en header sur notre Insta, on utilise TikTok pour faire, c'est le clin d'œil de la semaine. Donc en gros, on republie les vidéos les plus délirantes, les plus connasses, les plus improbables. Et franchement, il y en a plein. Voilà, donc pour revenir à TikTok, stricto sensu, ça a tellement d'influence, on va dire, ça a pris tellement de place en influenceur sur notre business, que ça nous sert aussi de repérage artistique. C'est vrai qu'il n'est pas rare. Dans les derniers mois, j'ai vu passer des emails qui venaient des US qui disaient que voilà, tel artiste sur TikTok a fait plus de tant de hits. Et donc, dans ce cas-là, on se dit, bah, attends,
Il
cher
faut signer.
TikToker, est-ce que tu veux faire plus avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, voilà. Donc, c'est un levier. Voilà, ça
Voilà,
devient
c'est
un
un
levier.
levier. Justement, on parlait tout à l'heure, bah, de TikTok, mais aussi le streaming, les réseaux sociaux. De quelle manière aujourd'hui ça permet aux artistes, 1, 2, 3, aux artistes de rester visibles, de maintenir le lien avec leur communauté?
Alors, on a un département digital chez Sony. C'est le plus gros département de la boîte. Ça doit peser quelque chose comme 50 personnes sur 200. Donc un quart de la boîte bosse sur le digital. Au département digital business, hein, uniquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du community management, ça veut dire qu'on a des relais d'influenceurs, ça veut dire qu'on a des développeurs d'audience, on a des trackers d'audience, on a, enfin, les métiers ont complètement changé, et c'est mon ancien président bien-aimé Monsieur Le Tavernier qui le disait il n'y a pas si longtemps. Il disait qu'en gros, voilà, dans les 5 ans à venir, les métiers auront changé. Quasiment tous.
Tous.
Et les métiers qui émergeront sont des métiers qu'on ne connaît pas encore.
Voilà. C'est ça, qui sont en train de se créer.
En permanente révolution. Ouais. Mais c'est ça qui est génial. Ouais. Hein. C'est ça qui fait que ça continue d'être un business fascinant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on était les premiers industriels de l'entertainment à se faire pirater, à se faire saccager. Mm-hmm. Et on a payé ça très cher.
Comment pirater ?
Ben, le téléchargement sauvage.
Ouais.
Ça a été... Mais toutes les autres industries auraient dû de l'entertainment, le cinéma, oui. Le cinéma, le jeu vidéo, les autres, oui. auraient dû se dire, peut-être qu'on devrait regarder ce qui se passe, parce que ça va nous arriver. Mm-hmm. Ça leur est arrivé.
Ça leur est arrivé.
Voilà. Ouais. Et on a servi de cobaye. Mm. Sauf que le cinéma et l'État, par exemple, sont beaucoup plus copains que la musique et l'État. Donc les subventions ne sont pas les mêmes, mm-hmm. les montants des subventions ne sont pas les mêmes, etc. Donc on a servi vraiment de cobaye, et puis on s'aperçoit que bah, on a survécu. Hein.
Ouais.
On a survécu. Et... Ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. Hein.
Et donc, là, les métiers sont en train de changer et vous, en fait, vous avez... non, toi, tu ne changes pas, évidemment. Mais vous, Sony, en parlant vous, Sony, ouais. donc, en fait, non seulement... toutes les plateformes que tu annonces là, toutes les... est-ce que tu peux reprendre un petit peu là-dessus, sur cette... Ah, tu sais plus trop.
Ben okay. Non, je vais reprendre quoi ?
Ce que tu disais, tu sais, sur l'évolution, en fait.
Des plateformes. Mais en fait, tout ça, tout
comment
ça.
Comment les artistes aujourd'hui.
Alors, tu vas voir, il y en a certains qui sont natives.
Mm-hmm. Justement.
Les milléniaux, voilà. Eux, c'est même pas
et
nouveau.
Et la Gen Z. La génération Z est encore
ça.
Plus jeune.
Mais pour eux, c'est naturel. C'est le reste qui ne l'est pas.
Mm-hmm.
On leur parle de télé, ils s'en foutent, quoi.
Mais
ils
ne
regardent pas la télé.
Absolument. Donc,
okay. On a vu, Iseut, avec la journaliste du Monde, qui n'a eu aucun respect, si je puis dire. Enfin, respect, ce n'est pas le bon mot, mais qui ne s'est pas soucié de ce que ça pourrait provoquer.
Non. Non, mais ça, après, il faut vivre avec son temps.
Ouais.
Ce n'est pas gênant.
Ouais.
Tout cohabite, tout peut très bien cohabiter. Le plus important pour nous, parce que ça finalement, c'est naturel. C'est-à-dire que les jeunes artistes, les jeunes acteurs du marché de la musique, en fait, arrivent sur le marché avec ces outils-là, avec une ultra bonne connaissance de ces outils-là. Alors bon, après, parfois, il faut les canaliser, il faut augmenter ou peut-être souligner certains angles, déterminer des stratégies, des priorités, etc. Mais ils ont plutôt une bonne vision du truc.
Oui.
Le plus important pour nous, c'est d'amener les autres.
Mmh.
Ceux qui justement sont entre guillemets de l'ancien monde, de l'ancien modèle, et qui ne comprennent pas très bien leur intérêt à aller sur une plateforme de streaming. Voilà.
Alors donne-nous un exemple.
Alors j'en ai un parce que il est
ouais. Je l'entends venir.
Non mais le public, vous savez, on s'en fout, on l'aime pas.
Ouais.
Mais Patrick Bruel
ouais.
a montré énormément. Alors moi je préfère regarder Patrick Bruel pendant le confinement
mmh.
que bien des autres comme Mathieu Chédid.
Ah bon, pourquoi ?
Parce qu'au bout d'un moment, il est saoulant, Mathieu Chédid. Il est là où on l'attend. Alors que Patrick Bruel n'y est pas. C'est-à-dire qu'il nous a fait des concerts, mais franchement...
Ah bon ?
Mais franchement, il fallait faire...
Oui, du coup, je suis allé regarder...
C'était surprenant, c'était vraiment surprenant. Et puis au-delà de ça, il a fait une espèce de web-série qui a été diffusée sur YouTube. Alors, il y avait un partenaire associé, mais je ne sais plus trop lequel. J'ai juste retenu le contenu plutôt que le vecteur du contenu. Et c'était assez bien fait, il était plutôt drôle.
Mm-hmm.
Bon voilà, ça me l'a rendu sympathique.
Il est
encore plus
maison
sympathique, j'ai envie de dire. Comment ?
Il est de quelle maison 10 ?
Sony Music.
Sans blague.
Et Mathieu Chédid ?
Il est chez Vagram.
Évidemment.
Enfin, il est chez lui, hein. C'est Vagram qui est chez lui.
Oui, quels sont ceux qui vous ont semblé plus créatifs, justement, plus productifs pendant toute cette période un peu bizarre
Alors, plus créatifs pendant cette période, je ne pourrais pas le dire, parce qu'en fait, c'est surtout durant cette période que je les ai identifiés.
Mm.
Mais j'ai en tête déjà un projet de la maison qui rassemble tous les fagnons dans le même courant. C'est une jeune artiste qui s'appelle Luz. Son groupe s'appelle Luz and Yakuza.
Mm-hmm.
Donc elle est née cette période-là ou...
Elle, vous savez, on avait commencé à travailler sur son projet au tout début du confinement ou juste avant. Mais on peut dire que l'ensemble de ce qui a germé autour de ce projet s'est opéré pendant le confinement.
C'est incroyable, elle a eu droit à Dior, elle a eu droit
à
la traduction de Amanda Goldman. Exactement. Enfin, c'est un truc hallucinant ce qui se passe autour d'elle.
Il y a énormément de choses. Alors après, c'est toujours pareil. C'est très compliqué de commencer. Enfin, il faut commencer par quelque part. Voilà. Cet artiste a on va dire, un potentiel image complètement fou.
Incroyable. Une aura incroyable.
Voilà, c'est
un personnage très, très solaire. Fort.
C'est un vrai personnage. Après, maintenant, il faut que son art premier, donc sa musique, touche le public. Voilà. Et c'est vrai que y a son personnage et son premier album, c'est toujours pareil. Un premier album, c'est une carte de visite. Oui. Là, la carte de visite, elle n'est pas uniquement musicale, elle est bien plus large que musicale. Alors, c'est très fort. Maintenant, il va falloir, sur le prochain album, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, être dans le spectre le plus large possible et toujours en respectant le désir premier de l'artiste dans sa création. Mais ça, c'est un très bon exemple. J'avais en tête une autre artiste qui est plutôt une artiste. Alors, elle est signée sur la partie classique de Sony. Elle s'appelle UL La Mort. Et je vous invite à taper. C'est UELE. L'amore, si on parlait italien. Ouais. Et j'invite tout le monde à aller taper ça dans Google. Parce
je
ne
la connaissais pas. Je l'ai découverte. Alors,
elle est bluffante. Mm-hmm. Elle est anglo-saxonne, elle est franco-américaine. Elle est très engagée sur des causes LGBT et sur la musique au sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est une musicienne classique qui joue avec les plus grands à Londres. Qui là en ce moment, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, on y revient. Elle a collaboré avec le laboratoire CSL, le laboratoire de Sony, et elle a produit en fait une bande son imaginaire pour un jeu vidéo imaginaire.
Wow.
Et c'est la parfaite bande son pour un jeu vidéo imaginaire un peu trash, un peu gore, un peu dur, comme les jeux vidéo pour teenagers peuvent l'être. Et c'est étonnant, quoi. Donc voilà, ça, c'est un exemple assez
c'est une sophistication, là.
Tu vois, c'est marrant parce qu'on est dans deux univers créatifs totalement différents. À côté, j'en ai d'autres.
Qui se nourrissent. Hein. Mais qui utilisent en plus...
Qui utilisent de l'IA. Voilà. Mais après, je vous invite aussi à écouter des nouveaux artistes, de nouvelles signatures, qui, pour le coup, sont très, très réseaux sociaux. Hein.
Ouais.
Alors, il y en a, je pense à un projet qui s'appelle Folle Amour. Je pense à un projet qui s'appelle Clon, K-L-O-N. Clon, c'est Folle Amour, vous écouterez. Hein. Mm-hmm. Clon, c'est une famille de jeunes. Ils ont une vingtaine d'années. Ils sont, je crois, sept. Mm-hmm. Ils vivent tous ensemble. Ils ont un look de feu. Ils font une musique cosmique. Ils sont vraiment en plein dans leur époque. Je pense à un autre artiste qui vient de... à titre personnel, je kiffe.
Les clans. Ouais.
Ils sont dingues. Hein. Franchement, c'est. Et alors, eux, pour le coup, leur Insta, il explose. Quoi. Mais voilà, c'est très important parce que ces exemples-là sont des exemples qui ont utilisé le confinement comme une force.
Oui,
voilà.
C'est ça.
Et qui ont communiqué. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Monsieur Giscard. Il s'appelle comme ça parce que son prénom, c'est Valérie. Et tout le monde l'appelait Monsieur Giscard à l'école. Et pareil, très, très, très moderne, très cool. Des paroles fantastiques. Et pareil, beaucoup de teasing sur les réseaux.
Essentiellement Insta.
Insta.
Ouais.
Insta, c'est Insta, TikTok.
Est-ce que ça veut dire que quand vous signez un artiste, avant de le signer, vous regardez son Instagram?
Ouais. Typiquement, ouais.
Aujourd'hui,
il faut qu'il ait combien de followers?
Oh,
au minimum.
Ça dépend. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est drôle. t'as pas tant de followers, on ne parle pas. Non, on regarde à peu près.
Possible, hein, quand même,
non, on regarde.
Il faut que ça soit créatif.
Oui, mais ça se regarde pas comme ça. Un artiste qui publie un truc le 5 janvier, s'il n'a pas 50 000 followers dans les 3 mois, c'est que ça prend pas.
Ouais.
Mais tu vois, s'il publie rien non plus, on va faire la balance. C'est sûr que plus tu publies, alors et Insta, on les connaît, on est proche de toutes ces unités, toutes ces business units en France. Ils viennent régulièrement faire, grâce à notre département digital, hein, qui est d'ailleurs très bien dirigé.
Évidemment.
S'ils m'écoutent. Et donc en gros, on les rencontre régulièrement, ils nous expliquent les finesses, les nouvelles choses, les nouveaux procédés, comment est-ce qu'il faut combiner pour remonter le plus dans les moteurs de recherche, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de la visibilité. Voilà. Et donc, oui.
Oui, vas-y.
Ils sont coachés.
Ils nous coachent et on coache nos artistes. Voilà.
Et justement, qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça change à la promotion des artistes?
Ça change tout. Ça change, ouais. Ça change tout. C'est-à-dire que j'ai commencé à la promotion dans un petit label dans les années 80. On renéotypait les biographies et on les envoyait aux journalistes. Aujourd'hui, déjà, t'es très loin de ça. C'est-à-dire que t'es artiste, tu fais un son à 2 du mat, tu peux le balancer direct sur ton site privé, sur ton cloud, sur aux différents endroits où tu as des points d'entrée vers ton public. Et puis, derrière, la communication se fait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes sont comme direct avec leur public. Mm-hmm. Il suffit de suivre Julien Doré sur Instagram. Ouais,
extra.
Et franchement, voilà, c'est un très bon exemple. Ouais. Julien, c'est un type qui vend énormément.
Ouais.
Et qui ne perd pourtant pas de vue l'importance qu'il y a de communiquer avec son public, de continuer et puis de se faire plaisir, parce que je pense qu'il se fait plaisir.
Il se fait plaisir. Voilà, et il nous fait plaisir.
Mais oui, mais ça.
De partager des moments.
Mais ça crée une proximité avec son public.
Mmh.
Et même, je vais vous dire, enfin, c'est quelque chose qui marche aussi. Alors, c'est vrai qu'il a un potentiel sympathie évident.
On l'a vu grandir.
C'est un petit peu ça.
C'est ça.
C'est un petit peu. Moi, c'est carrément ça, pour le coup. Ouais. Mais ça le rend encore plus touchant parce que ça le montre. Tel qu'il est, sans non plus, sans
son personnage. Voilà, très second degré.
Ouais, oui, alors là, il est même.
Quatrième degré.
Il est passé très loin.
Il est chez dans quelle maison de disques?
Sony.
D'accord.
Oui, je suis désolé, j'aime beaucoup les artistes de ma maison.
Et on voit ça. Et justement, là, tu parlais des sorties d'albums, le fait qu'aujourd'hui, est-ce que.
Écoute, on n'a pas arrêté de sortir des albums pendant toute l'année, nous. Hein.
Oui. Le confinement,
rappelez-vous, les albums aujourd'hui, à part les albums, alors si on avait sorti un album d'ACDC, ça aurait été un problème. Parce que ça, le public d'ACDC achète encore physiquement.
Oui.
Il y a certains trucs qu'on a reculés ou qu'on a accompagnés. Par exemple, Indochine, ça a été vraiment. Une gestion très très serrée, puisqu'en fait on a sorti un double recueil de singles et on dit pas une compilation parce que c'est pas le cas. Le marché que couvre Indochine est à la fois digital, à la fois physique, et donc il est hors de question de se couper du marché physique. Indochine, c'est un numéro 1, donc toujours.
Mm-hmm.
Donc il y a eu un timing un petit peu
contrarié.
C'est ça, parce qu'il y a eu des reports. On l'a géré.
Bah, il n'aurait pas fallu qu'il y en ait trop.
Ouais.
Du coup, on a priorisé nos artistes, les artistes sur lesquels il y avait vraiment quelque chose d'écrit à ce moment-là. Après, pour tous les autres, comme ce sont des sorties quasi digitales. Il n'y a pas de
perte de dilution.
Mais surtout, il n'y a pas de périodicité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, tiens, cet album doit être dans les magasins à un moment où les gens y vont.
Okay. Oui, les gens sont chez eux, ils écoutent de la musique.
Mais la visibilité, elle est permanente. Si ton artiste est bon, si la promotion que tu fais est bonne, mais l'artiste, il va être visible. Mais après, si tu penses que tu n'auras pas de bonne promotion et qu'il ne sera pas visible sur les plateformes, ce n'est même pas la peine de travailler avec lui. C'est aussi ça le pari. Voilà, c'est pas péjoratif ce que je dis là. C'est juste que tout le monde fait de la musique. Je fais de la musique. Hein. Je vais pas voir une maison de disques pour qu'elle me signe.
Ouais.
Donc voilà. Quand tu fais ça, c'est ton choix et qu'il y a rien d'autre qui t'intéresse et tu t'es persuadé que tu vas y arriver.
Ouais.
Et donc tu y arrives.
En parlant de visibilité, de nombreux artistes et actrices de l'industrie de la musique se font entendre et servent de porte-voix pour dénoncer le manque d'égalité, le sexisme qu'elles subissent, sachant que 80% des productions artistiques visibles sur scène ou sur écran sont créées par des hommes.
C'est pas vrai. Regarde les exemples que je t'ai donnés.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Il y a quand même beaucoup de femmes. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, il y en a toujours eu, mais on va dire qu'elles ont une voix supplémentaire, notamment parce qu'il y a une repasse nécessaire sur effectivement l'égalité, la dénonciation des abus dans tous les métiers créatifs, c'est pas spécial à la musique.
Non. Mais ouais, le MeToo, paye-toi.
J'attends qu'il y ait la même chose en politique.
Paye ton label.
Qu'il y ait la même chose dans les
grandes... En économie, dans tous les domaines.
Donc, ouais. Voilà, c'est un phénomène sociétal. C'est pas juste lié au métier de l'entertainment. Après, c'est vrai
On n'y échappe pas. Mais il faut dire que dans l'industrie, dans ce métier-là, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes.
Alors, ouais. Puisqu'on est sur un site qui parle du quartier, je vous propose d'aller à la boucherie pour voir combien il y a de femmes.
Non, mais nous, c'est pas ça le truc. Je veux dire, la musique, c'est quelque chose d'assez universel. Donc, voilà. Justement, on entend la diversité.
Figure-toi que non seulement la diversité est un point d'entrée chez Sony depuis déjà quelques années. Hein. On n'a pas attendu que George Floyd se fasse écraser la glotte.
Ouais.
Mais effectivement, ça a complètement amplifié le phénomène, à tel point qu'il y a des officers, des responsables de l'équité raciale dans la maison de disques.
Dans beaucoup de grandes entreprises aujourd'hui.
En tout cas, dans celle-là, c'est comme ça. Hein. On a un programme qui s'appelle Nos quartiers ont du talent, où on est, enfin, pour ceux qui le décident, c'est sur le mode du volontariat, où on parraine quelqu'un qui vient d'un quartier en difficulté par rapport à nos métiers pour le piloter, lui expliquer, l'aimer. Moi, j'ai commencé dans la musique, je savais absolument pas quoi y faire. Il n'y a pas une école qui te dit, tiens, tu veux travailler dans la musique, voilà ce que tu vas faire, sauf un gestion. Mais sinon, les métiers de promoteur, puis alors avec tous les nouveaux métiers qui viennent d'arriver, il y a très peu d'écoles qui préparent à ça. Ou alors, ce sont des masters comme les MIC. Donc, en fait, non, pour résumer...
Il était temps qu'il y ait
un coup de pied dans la fourmilière qui soit donné. Maintenant, très honnêtement, il faut le donner tout en haut pour que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'abus qui sont notoires. C'est l'omerta, tout le monde ferme sa gueule.
Voilà.
Et donc, il y en a quelques-uns qui partent sur la pointe des pieds, genre bon, ben non, j'ai fait ma carrière, maintenant j'y vais, avant que ça leur tombe dessus.
Ouais.
Et puis, il y en a d'autres qui partent pour de nouvelles aventures, on ne sait pas trop où ils vont les mener. Bon, ça dit clairement qu'ils se sont fait déboulonner. Je pense que ça c'est pas possible. Quand un patron de major, par exemple, voit un de ses directeurs de label faire une connerie, il doit le reprendre. Voilà. Et il doit faire un exemple.
Ouais.
Après, il faut faire attention. C'est toujours très délicat. Il faut être juste. Voilà, faut être juste. Mais c'est nécessaire. C'est un bien nécessaire, j'ai envie de dire, contrairement à un mal nécessaire. Après, moi, par exemple, Je m'attends à ce que à la tête de Sony Music on ait une femme.
Il n'y a pas beaucoup de femmes patronnes de label.
Pourquoi pas? Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer en ce moment.
Oui, et dans tous les domaines. Hein,
mais dans la musique particulièrement, vraiment. Et c'est marrant parce qu'on peut avoir l'avenir nous le dira. Hein, on ne sait pas encore. On attend nous une nouvelle présidence. On ne sait pas encore si c'est un homme, une femme. Moi, je pense que ce sera une femme. J'ai même envie de dire, je pense que ce sera une femme qui vient plutôt des univers qu'on vient d'évoquer.
La musique urbaine
Notamment urbaine, mais surtout le monde digital.
Le monde digital, c'est normal,
il faut vivre avec l'époque, et l'époque, elle est drivée par le digital et la musique urbaine.
Ouais.
Après, il faut se rappeler aussi que c'est une maison de 10, c'est une major, elle est généraliste, et même si ça, c'est le fer de lance, il faut continuer de développer tous les autres genres. On doit couvrir tout le spectre musical, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a un patrimoine. Nous, notre richesse, c'est le patrimoine musical.
Le fameux catalogue.
Oui, bien sûr. C'est très important, ça, le catalogue. Sur la synchronisation, pour revenir à mon métier, on va dire que 90% des titres qui sont utilisés sont des titres du catalogue. Et seulement 10% du frontline.
Ah oui.
Voilà, ça, c'est...
Ouais.
Et c'est la même proportion. 90% de musique anglo-saxonne versus 10%, 10-15% de musique française. Et la musique française, généralement... C'est Françoise Hardy, Jacques Dutronc, c'est le yéyé 60s emblématique dont on sert dans les films quand on veut parler de la France d'après-guerre.
Oui, le truc un peu cliché.
C'est ça,
quand même,
c'est un cliché. Ben voilà. Je suis étonné que
t'es
pas une baguette, un béret.
Mais j'ai,
tout ça, c'est dans notre tête.
La marinière.
Sur quoi on va danser cet été
Alors nous deux, tu veux dire
ouais.
Bah, j'ai envie de dire, moi j'ai envie de te dire, attends... Zouk la CSL m'a dit comment nous dit.
C'est mieux pour quelqu'un qui est tourné vers l'avenir.
Je m'en fous, c'est pour montrer que je parle créole. Non, moi je vais danser sur Soso Maness cet été.
C'est qui? C'est quoi?
C'est un rappeur marseillais qui défonce les charts et qui a des textes incroyables. Et puis moi je vais danser sur Monsieur Giscard parce que j'aime bien.
Ouais.
Mais c'est encore une fois.
Et des filles.
Ben pour l'instant, je n'ai pas encore dansé sur des filles.
Et la world music, parce que moi j'aime beaucoup la façon dont est répartie la musique. Il y a la musique,
ça
c'est-à-dire la pop musique.
Et
oui,
la
ça ne veut rien
music,
dire.
Ça alors, veut non, dire. Mais, c'est la musique d'ailleurs, la world
voilà,
music.
Voilà, voilà. Non, mais alors justement, quand on parle tout le temps de la résurgence, de l'apparition de la musique africaine, de la musique d'Europe de l'Est, du Mexique.
Oui, mais la musique, alors les grands noms de la musique africaine, maintenant, alors c'est ça qui est très intéressant, ils sont tout de suite repérés par les US. Et on les prend, on prend tel mec qui fait de la kora et on l'emmène à New York et il va jouer derrière Jay-Z. Et voilà. Et donc très rapidement, en fait, il y a le switch entre j'étais dans on va dire, une toute petite ornière, je faisais de la musique presque communautaire, si on peut employer le mot, dans mon coin. Il y a deux mecs qui me samplent et hop, je me retrouve ailleurs avec des moyens incroyables. Et ça, c'est dur à gérer, je pense. Dans la tête,
Ça doit être
c'est compliqué. Hein. Il faut être bien accompagné parce que sinon, tu te perds.
En fait, c'est vraiment le glocal. En fait, c'est le local qui devient global. C'est
joli comme mot, ça, glocal.
C'est comme le marais mood.
Ouais.
J'adore, vous inventez des mots.
Ouais, c'est mon travail d'inventer des mots, mais qui veulent dire quelque chose.
Bien sûr. Donc, mais glocal, comment ça pourrait faire glauque et vocal.
Ouais. Mais nous, on a choisi
global et vocal. C'est mieux quand même.
Alors, l'avenir, c'est aussi penser à la planète, mettre de la musique dans des clouds, ça pèse, contrairement
alors,
à ce qu'on pourrait
pèse,
penser.
Ça pèse, mais
et puis décarboner aussi.
Alors,
bon, les voyages.
Le cloud,
ouais.
On a des usines, enfin, on a des endroits, je ne sais pas si c'est des usines, mais non, c'est plus des entrepôts, des data warehouse, qui stockent, qui sont ultra protégés. Qui sont, alors, je crois que pour l'Europe, c'est basé en Hollande. Bon, ce qu'il faut voir, c'est quand même qu'on dépense beaucoup. Enfin, on crame beaucoup moins de plastique.
Oui.
Le CD, je ne sais pas si vous voyez l'usine à gaz que c'est. Et une fois que tu fabriques des CD, quand les CD, ce qu'on appelle les retours, c'est-à-dire qu'une fois que tu as passé ton timing d'exploitation d'un disque, bah, ce que tu n'as pas vendu, c'est ce qu'on appelle nous les rogatons. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ces disques-là? Est-ce qu'on les déclasse? Est-ce qu'on les casse? Et bien souvent, les cassettes.
Non.
Bon, mais si, bien sûr, parce qu'on ne va pas vendre la musique, on ne va pas brader la musique. Enfin, notre job, ce n'est pas de brader la musique, c'est de continuer de la défendre, de défendre son coût d'exploitation et le revenu que ça génère pour l'artiste qui est derrière. Donc, si le disque ne se vend plus, on a plus intérêt à le casser qu'à le filer dans les stations-service, en gros.
Ouais.
Ce qui était le cas avant avec les cassettes audio, on voyait sur les tours des vacances des cassettes à 2 francs. Bon, bref. Donc ça c'est une première initiative. Une autre initiative, c'est tout le consommable. Dans un building qui abrite 200 personnes en fixe et dans lequel tu as quand même un passage, enfin tu te rends compte qu'on brasse beaucoup de gens, le nombre de gobelets plastoc, de saloperies de consommation qui est, donc voilà. Donc il y a une initiative en interne. On est très by the book. Je ne sais pas que les actionnaires sont japonais. Hein.
Ah oui, en effet. Et le data center aussi, en fait, l'énergie que génère. Voilà,
alors, ça aussi, il y a de la récupération, mais surtout, j'ai l'impression qu'on est plus green qu'on ne l'était. D'ailleurs, à ce propos, on a investi dans le festival We Love Green il y a quelques années.
Ce n'est
pas un hasard. Ce sont des gens desquels on. On a été en tout cas partenaire en tant que maison disque. Moi, je suis ami avec vraiment les cofondateurs de ce festival. Donc, je les suis depuis, on se connaît depuis 25 ans, mais je les suis depuis le début du festival. Ils ont gagné plein de prix. C'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui n'est pas éco-friendly, c'est écarté d'emblée. Hein. Et tous nos partenaires sont pareils. J'en veux pour preuve les grands acteurs du luxe qui ont tous des chief officers du développement durable qui sont là pour ça, qui sont là pour.
Il y a moins de washing aussi, il y a moins de greenwashing aussi. Et puis avec le développement, tu le disais, avec le développement de l'IA, de la 3D, de la VR, ben on sera amené à peut-être voir des concerts depuis chez nous.
Oui.
On fera moins voyager les artistes aussi.
Oui, j'imagine.
Ils pourront se produire sur des scènes virtuelles et nous. Oui, je sais.
J'espère.
J'espère, mais en même temps, on a envie de voir des artistes partout.
Bien sûr, mais s'ils doivent se déplacer en jet.
Voilà, je pense que.
David Bowie, à la fin de sa vie, ne prenait plus autre chose qu'un jet ou un paquebot.
Ah, c'est plus joli, c'est un
Voilà.
verbe.
Oui, mais enfin bon.
Ça pollue
En matière
autant, hein.
de pollution.
Pardon, mais voilà.
Voilà.
C'est vrai que c'est
Ouais.
glam, mais par contre, quand tu penses à
Ouais.
ce que ça
Produit.
produit comme saloperie.
Alors là, comme on est off limite et qu'on n'aura pas le temps de faire une très belle conclusion super sur les tendances, donc ça veut dire qu'on fera une prochaine interview d'Eric,
Un
pourquoi pas.
conseil.
Un conseil à un jeune artiste aujourd'hui, valable aujourd'hui et demain, justement.
En quelques mots.
En 3 mots, never give up, c'est un très bon conseil. Il faut jamais lâcher l'affaire. Tu lâches l'affaire sur ton projet, c'est que c'est pas un bon projet. Voilà. Mais c'est pareil pour une start-up, c'est pareil pour beaucoup de choses. On part d'une idée et puis il faut passer son temps à la construire et aussi à la déconstruire pour voir toutes ses faiblesses. Et puis au bout d'un moment, elle devient tellement, les faiblesses sont tellement out que ça devient un vrai projet dur. C'est là où il faut aller l'exploiter.
Ouais, et
Et
comme
faut choisir les bons partenaires.
voilà. Et comme tu l'as dit, en plus, les bons partenaires sauront reconnaître les bons artistes qui aujourd'hui ont des mentalités de start-upper.
Et c'est surtout une affaire après humaine. Hein. Faut pas, il n'y a pas une technique infaillible. Voilà, on parle de musique, donc c'est de l'art. Et les artistes ont des moments forts, des moments faibles. Je pense que l'encadrement d'un artiste, c'est aussi ça. Là, par exemple, cette année, il a fallu expliquer à des jeunes artistes que le Covid n'est pas une fatalité. C'est arrivé, d'accord, mais ce n'est pas la faute de la maison de disques, ce n'est pas de leur faute à eux. Comment est-ce qu'on transforme une faiblesse en une force? Qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on rebondit dès que ça recommence? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Voilà. Donc c'est vraiment, faut mettre toute son énergie dans son projet. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ça ne marche pas.
C'est super,
Ok.
merci beaucoup.
Allez,
On a
merci,
vraiment fait une belle visite de ce monde de la musique et
et
c'est
du
génial.
divertissement.
Ouais, on a appris beaucoup. Merci beaucoup, Eric.
Avec plaisir.
Violet.
À la
Eric
semaine
Violet.
prochaine, Eric Violet.
À dimanche.
Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes,
à mettre un commentaire ou 5 étoiles,
à suivre le Marais Mood sur Instagram et à partager l'épisode en story,
à découvrir les autres épisodes déjà en ligne,
à parler de moderne autour de vous.
Un grand merci.
Katia Barillo et
Sandrine Maggiani,
fondatrice du podcast Moderne.